Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après Londres et Paris, Bruxelles donc pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, longuement applaudi par les eurodéputés ce matin. Nous vous défendons contre la force anti-européenne du monde moderne, a asséné le chef de l'État, chef de guerre, près d'un an après le début de l'invasion russe dans le pays, appelant les Européens à l'aider encore un peu plus et à lui fournir ses avions de chasse rebaptisés les ailes de la liberté. Londres semble ouvrir la porte, les Européens ne vont pas aussi loin, on en parlera longuement tout au long de cette édition et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. La France doit-elle, selon vous, fournir des avions de combat à l'Ukraine? Dans cette édition également, les autorités sanitaires qui recommandent de vacciner tous les enfants contre la grippe saisonnière dès 2 ans. Et puis Alexis Pinturo en quête d'un nouveau podium au Mondiaux de Courchevel. Ce matin, c'est le Super G.
Et puis, on ira dans la ville du bonheur ce matin.
Ah, franchement, c'est un sacré match, une sacrée fierté. Honnêtement, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Une ambiance formidable.
Marseille, donc, évidemment, où tout le monde a le sourire après la victoire historique hier en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Des années qu'il l'attendait, les Phocéens. Dans une dizaine de minutes, le panier RTL et des prix qui augmentent toujours, mais moins vite. Les Français, eux, plébiscitent, vous l'entendrez, les enseignes Discount. À midi 20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien à l'occasion de la semaine Green sur RTL. Cette semaine où l'on met en avant des initiatives vertes pour protéger la planète, eh bien, on vous donnera tous les conseils pour des vacances d'hiver respectueuses de l'environnement. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Il a 70 ans et c'est un succès insolent. On célébrera le livre de poche avec Bernard Lehu.
Tous ces sujets, bien sûr, à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole. 32-10.
Nous venons de vivre la matinée la plus froide en moyenne depuis 5 ans. Vous l'avez peut-être senti ce matin, ça piquait un peu. On va parler de l'après-midi. Est-ce que ça se réchauffe, Beggy Brosse?
Ah oui.
Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Belle amplitude thermique parce que cet après-midi, on a des valeurs de saison, donc ça va changer.
Merci Beggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Nous sommes européens, c'est ce qu'a clamé ce matin à Bruxelles Volodymyr Zelensky après Londres et Paris. Hier, le président ukrainien poursuit cette tournée européenne. Il est donc en Belgique pour demander aux 27 d'aider davantage encore son pays en pleine guerre face à la Russie. Thomas Desprez.
Oui, première étape pour Volodymyr Zelensky ce matin au Parlement européen. C'est ici qu'il a été ovationné pendant de longues minutes tout à l'heure. Le président ukrainien dans son costume de chef de guerre, pantalon kaki, devant un hémicycle debout. Volodymyr Zelensky qui est venu avec un message. Si la Russie venait à remporter cette guerre, c'est toute l'Europe qui tomberait.
Une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera. Le vôtre, celui des 27 États de l'Union européenne. Votre mode de vie disparaîtra près de l'autre. Nous ne devons pas permettre ceci.
Un appel à la solidarité européenne. Solidarité également en ce qui concerne la livraison de matériel militaire. Volodymyr Zelensky qui est venu demander à l'Europe des moyens supplémentaires, des avions notamment. Discussions qui vont se poursuivre toute la journée avec les chefs d'État et de gouvernement des 27, réunis en ce moment même en Conseil européen.
Thomas Desprez en Bruxelles pour RTL. La question des avions de chasse au cœur, vous l'avez compris, de ce déplacement du président ukrainien en Europe. Le Royaume-Uni a semblé ouvrir la porte hier. Les Européens vont-ils suivre? On y reviendra longuement à partir de 12h40.
L'acte 4 aura lieu samedi, mais les syndicats préparent déjà les futurs épisodes de leur mobilisation contre la réforme des retraites.
La prochaine démonstration de force est prévue ce samedi, le 11 février, donc il y en aura une autre jeudi prochain, le 16. Et RTL vous le révélait dès hier soir, les syndicats ont aussi coché la date du 7 mars, après les vacances scolaires, donc cette fois. Marie Guerrier, c'est dans un mois, mais on sent que ça pourrait bien se durcir à ce moment-là.
Oui, le mot durcissement est prononcé par certains syndicats, mais sans préciser pour l'instant les modes d'action. Ils discutent, en tout cas, pour faire du mardi 7 mars une nouvelle journée massive de mobilisation. Vous l'avez dit, les vacances scolaires seront terminées. L'objectif, c'est donc un maximum de monde dans la rue et surtout un maximum de grévistes. Bloquer l'économie pour faire céder le gouvernement, c'est ce que veulent les uns qui parlent de grève reconductible. Mais rien n'est acté, nous disent d'autres sources syndicales. Le 7 7 mars, on sera en plein examen du projet de réforme au Sénat. Le 7, c'est le chiffre symbolique de cette lutte menée par les syndicats. L'article 7 est celui qui fait passer l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Samedi prochain, 11 février, jour de manifestation, l'intersyndicale tiendra une conférence de presse en fin de matinée pour préciser les suites qu'ils donneront au mouvement avec un objectif: rester unis. Alors je récapitule ce qu'on sait. Mobilisation le 16 février, jeudi prochain, pendant les vacances. 2 semaines de battement, puis à nouveau très probablement le 7 mars, au retour des vacances. Peut-être aussi le 8 mars, qui coïncide avec la Journée internationale des femmes, et ensuite la menace de durcissement.
Merci beaucoup Marie Guerrier pour RTL. Les autorités sanitaires recommandent désormais de vacciner tous les enfants de plus de 2 ans contre la grippe saisonnière. Elles mettent en avant l'intérêt collectif d'une telle mesure, sans toutefois vouloir rendre ce vaccin obligatoire. Jusqu'à là, le vaccin contre la grippe saisonnière n'est recommandé que pour les personnes âgées ou fragiles. On y revient en détail à 12h30. Le foot et la Coupe de France avec l'exploit de l'OM face au Paris Saint-Germain. On y reviendra dans quelques minutes. Victoire 2-1 des Marseillais. Les autres résultats et les qualifications: d'Annecy, Nantes, Lyon, Rodez, Grenoble et Toulouse. Avant le dernier 8e, Lorient-Lens, ce sera ce soir à 21h.
Direction Courchevel à présent, suite des mondiaux de ski. Courchevel où Alexis Peintureau rêve d'un nouveau podium à la maison.
Sacré en combiné. Il y a 2 jours, le Français disputait ce matin le Super G. Serge Peillot, il n'y aura pas de deuxième titre, on le sait déjà, mais la médaille, c'est encore possible.
Oui, c'est encore possible puisque Alexis Peintureau est actuellement 3e à 26 centièmes du leader James Crawford, le Canadien, qui a réussi un temps canon devant Kilde, le Norvégien, qui est à 1 centième. Et donc Alexis Peintureau est sur la boîte, comme l'on dit pour l'instant. Il est médaille de bronze, mais la course n'est pas terminée. Il reste encore des coureurs. Marco Dermat, le grand favori, est 4e derrière Alexis Peintureau. Donc Peintureau a fait une grosse course et pour l'instant, il est 3e de ce championnat du monde du Super G. Une place à confirmer, bien sûr, puisqu'il reste quelques coureurs. Mais en tout cas, Alexis Peintureau, bien parti pour remporter une médaille de bronze.
Merci beaucoup, Serge Peillot, en direct de Courchevel pour RTL.
On ne parle pas de flocons, mais d'une fine pellicule blanche qui recouvre tout. Les gelées étaient nombreuses ce matin dans le pays.
Alors, pas étonnant, me direz-vous. Nous sommes le 9 février, en plein hiver, donc. Mais si l'on regarde les minimales, ça fait 5 ans qu'elles n'avaient pas été aussi basses en moyenne. Moins 9,6 degrés à Charleville-Mézières, moins 9 presque à Nevers, moins 7 à Orléans, moins 5 à Vouvray en Indre-et-Loire. Et étonnamment, là-bas, c'est presque une bonne nouvelle pour le vigneron Frédéric Bourillon.
C'est une très très bonne nouvelle pour nous d'avoir ce froid en ce moment. On est peut-être 3-4 degrés en dessous des normales saisonnières. Mais on se base sur les 15 dernières années qui ont été des années chaudes, des hivers chauds. Et on revient à la normalité. Février, ça reste un mois d'hiver. Et d'avoir des moins 4, moins 5, voire moins 6 au mois de février, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, la végétation, elle est en hivernation. Donc les petits bourgeons ne sont pas sortis, que ce soit les arbres comme les fruitiers, comme les vignes. Donc au contraire, on préfère d'avoir des gelées maintenant que de les avoir au mois d'avril, au mois de mai, où là, il y a destruction de la récolte future. Il n'y a rien d'alarmant d'avoir ce temps-là maintenant. Il peut même durer jusqu'à début mars. Moi, j'y vois aucun inconvénient.
Un propos recueilli pour RTL par Christian Panvert. On parlait des gelées fréquentes ce matin. À l'instant, Peggy Broche. Ça se réchauffe un petit peu cet après-midi.
Ok, oui, on parle même d'une belle amplitude thermique. Comment parce qu'on est globalement sur des températures de saison. Donc vous imaginez, à part quelques endroits où ça reste un peu frais, c'est vrai à Langres, mais bon, 4 degrés, 6 à Strasbourg, 7 à Paris. Et je parlais d'amplitude thermique. Il a fait moins 9 ce matin à Reims. Cet après-midi, il en fera 7. Donc c'est vous dire, on est sur des valeurs de saison. 9 degrés à Lyon ainsi qu'à Tarbes, 10 à Caen et Toulouse, 11 à Bordeaux et 12 à Montpellier. Maintenant, côté ciel, on a encore beaucoup de soleil sur l'ensemble du pays. La petite nouveauté par rapport à la veille et au jour précédent, c'est qu'on a une perturbation qui rentre. Alors, elle donne vraiment quasiment pas de pluie, mais on a beaucoup de nuages entre la Bretagne cet après-midi jusqu'à la Normandie et les Hauts-de-France. Peut-être aller 2-3 gouttes sur le nord, vraiment sur les côtes, mais encore, c'est pas sûr. Et sinon, partout ailleurs du soleil, on a même une belle amélioration prévue cet après-midi sur la Corse avec le retour de quelques éclaircies, encore quelques flocons, mais pas grand-chose. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des valeurs de saison et c'est une belle journée d'hiver.
Merci beaucoup Peggy Broche.
RTL Midi, un jour chez vous.
J'ai regardé les dernières minutes du match et vers 23h, j'ai appelé Cyprien Sini. Chacun sait qu'il est Marseillais et qu'il suit l'Olympique de Marseille. Il n'a pas décroché tellement il était tendu, m'a-t-elle dit ce matin. Il ne pouvait pas décrocher son téléphone.
Mais c'est pas Cyprien qu'on va retrouver là, non. C'est Hugo Hamelin qui lui est à Marseille. Bonjour Hugo.
Et son fils bonjour est parisien, donc c'est un dilemme à chaque fois.
Là vous reparlez de Cyprien.
Bien sûr, parce qu'il regarde, bah oui, son fils est né à Paris mais et lui est marseillais.
Je donne tout pour que les auditeurs arrivent à nous suivre.
Bien évidemment.
Donc laissons Cyprien sur son canapé avec son fils et on vous retrouve, vous, Hugo Hamelin, dans les rues de Marseille. Hugo, peut-être la ville de France où l'on sourit le plus en ce jeudi, au lendemain de cette victoire à la maison face au PSG en Coupe de France. Vous êtes, Hugo, avec des supporters fatigué mais comblé.
Ouais, c'est vrai, ce midi à Marseille, il n'y a que des Martin Luther King. On a tous fait un rêve cette nuit, celui que Marseille avait battu Paris. Et après une nuit agitée, une nuit anisée, on se réveille.
Bien léger, tranquille. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral.
Voilà, c'était la folie du Vieux-Port au quartier Nord. Concert de klaxon à la sortie du stade, la fête dans tous les bars. Emmanuel, c'est le gérant de la brasserie de la Croix-Rouge où je me trouve ce midi.
Ici même, on a regardé le match, c'était un truc incroyable. C'était plus qu'un match en fait, c'était une émotion qu'on devait gagner. On était à peu près une cinquantaine, franchement c'était la folie. Après chaque but incroyable, et puis après chaque erreur d'arbitrage aussi. Il y a eu des insultes un peu de partout, mais bon, sinon, bonne ambiance.
Bonne ambiance, Neymar et Léo Messi au tapis, 12 ans d'attente et des souvenirs, c'est garanti pour les 12 prochaines années.
Cette victoire réveille un peu l'antagonisme avec Paris. Ça faisait 12 ans que l'OM n'avait plus battu le Paris Saint-Germain au Vélodrome.
Ouais, c'est vrai. Tout d'abord, cette petite scène que j'ai aperçue hier soir devant le stade. Alors, vous connaissiez déjà les chants de supporters, les feux d'artifice. Moi, j'ai assisté à une petite cérémonie vaudou. Quelques jeunes supporters de l'OM autour d'un maillot du PSG, un briquet ou deux, ils y ont mis le feu. Puis carrément, avec ce qui restait du maillot, ils l'ont bourré de pétards qui a explosé en 1000 morceaux sur le parvis du stade. Voilà, c'est symbolique, c'est une métaphore, c'était une façon de vaincre le signe indien. Et ce midi, pour Eric, c'est vrai qu'il y a un peu plus de kilomètres qui séparent la capitale de la cité phocéenne.
Pour nous, le football, c'est une religion. Marseille et Paris, c'est deux pays différents. C'est pas qu'on n'aime pas les Parisiens. Hein. C'est que pour nous, c'est deux pays différents parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de vivre. Nous, les Marseillais, on est chaleureux, on parle à tout le monde, on est gentil. Et on aime le football, vraiment.
Voilà, une victoire contre le PSG, vous voyez, ça vous apporte toutes les qualités du monde. C'est en tout cas ce que pensent les supporters ce midi.
Oui, c'est assez flagrant. Merci beaucoup, Hugo Hamelin et Damien, notre réalisateur un peu taquin. Et au passage, supporter parisien précise que l'OM n'est à ce stade qualifié que pour les quarts de finale de la Coupe de France.
C'est ça qui est étonnant, c'est pas non plus la finale de la Ligue des Champions, Hugo, faut se calmer à Marseille.
Bah non mais 12 ans d'attente, vous l'avez dit, c'est incroyable. Marseille passe en quart et laisse le PSG à l'arrêt de bus.
Bon, vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'une des actualités du jour. Le panier RTL, dans une seconde, qui augmente et les Français vont dans les supermarchés discount.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
C'est presque une bonne nouvelle dans cette spirale inflationniste que vous n'avez pu que constater, subir même au moment de faire vos courses. Le panier RTL a certes encore augmenté le mois dernier, mais de 1% seulement. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Alors le panier RTL, on le rappelle, c'est une liste de courses, 13 produits du quotidien. Et la facture a pris 36 centimes en un mois.
Oui, c'est ça. Donc c'est une accalmie, on va dire, parce qu'on a connu des hausses plus importantes que ça. En revanche, c'est une accalmie qui est provisoire. Je vous dis pas ça parce que je sais prédire l'avenir dans les feuilles de thé, mais parce que je sais lire les tableurs Excel, et notamment celui du panier RTL depuis plus d'un an. L'an dernier, en mars, en avril et en mai, le prix avait augmenté en moyenne de 4,5% tous les mois. Donc mars comme point de départ parce que en fait finalement c'est juste après les négociations commerciales, ce rendez-vous annuel entre les représentants des supermarchés et les représentants des marques, des réunions qui vont déboucher cette année sans aucun doute sur des hausses de prix. Certains experts parlent de mars rouge avec le début du pic de l'inflation. On contrôlera ça le mois prochain, mais il y a assez peu de doutes, le panier coûtera plus cher et la hausse sera supérieure à 1% comme ce mois-ci.
Ce que vous avez constaté, Pierre, et c'est peut-être la conséquence directe de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que les Français en profitent pour se tourner vers les supermarchés discount.
Oui, c'est ça. Je suis allé le vérifier dans une zone commerciale à Plaisir dans les Yvelines en région parisienne. Parking plein à l'heure du déjeuner. Il y avait un Lidl juste à côté. Là, en l'occurrence, j'étais chez Aldi. L'enseigne affirme avoir gagné 700 000 nouveaux clients l'année dernière. Elle compte ouvrir 100 magasins tous les ans jusqu'en 2030. Globalement, les discounters sont ceux qui tirent leur épingle du jeu ces dernières années. Lidl et Aldi, justement, sont les deux plus gros. Ils gagnent des parts de marché d'année en année, plus 5% ces quatre dernières années, et même 0,2% de parts de marché supplémentaires, rien que le mois dernier. Le pic de l'inflation que l'on va connaître pourrait bien accélérer ce processus.
Et d'ailleurs, Aldi, Pierre, n'est pas le seul discount à envisager des ouvertures. Écoutez, Yves Puget, c'est le directeur du magazine de la grande consommation LSA.
Il est certain que les grandes enseignes historiques ouvrent très très peu de magasins, mais on peut voir par exemple que Supeco du groupe Carrefour, ouvert il y a 2 ans, a déjà une trentaine de magasins. Tout juste a annoncé là très récemment l'ouverture également d'un programme de 300 ouvertures de magasins. L'espagnol Primaprix a également ouvert quelques magasins. Carrefour voudrait lancer avant la fin de l'année Atacadao. Donc on voit que les grands du discount sont concurrencés de plus en plus par de nouveaux arrivants.
Mais Pierre, c'est vraiment moins cher ?
Alors, c'est ce que je suis allé vérifier avec la même méthode que pour le panier. Lui, je vous rappelle, il coûte 30,61 €. Les mêmes courses dans un discounter, eh bien, elles tombent à 21,64 €. 9 € d'économie. En pourcentage, ça veut dire que c'est 30% moins cher à peu près. C'est clair que ce n'est pas négligeable. C'est ce que m'ont dit les consommateurs. En l'occurrence, les consommatrices que j'ai rencontrées sur place au supermarché.
Regardez mes paniers, j'en ai eu pour 50 €. Et j'ai acheté de la viande, j'ai acheté du poisson congelé.
Vous savez ce que vous économisez en venant ici ?
Je pense que je fais 150 à 200 par mois. Hein. Facile, déco.
D'économie ?
Ouais, sur la bouffe, ouais, c'est clair.
Aujourd'hui, la différence, elle est importante. Hein. Même si c'est, ouais, c'est juste 1 €, ça fait quand même la différence. Oui. Tout touché par ça. Hein. Et du coup, dès que c'est moins cher, même si c'est 1 €, bah, c'est OK. 1 € aussi, on prend le temps d'aller là où c'est moins cher tout le temps. Même des centimes, faut vraiment pas négliger. Aujourd'hui, on fait attention vraiment à tout. Avec l'inflation, là, on peut plus se permettre de jouer avec les sous. Hein.
Pierre, exemple précis peut-être de produits moins chers ?
Alors, 70 centimes pour un paquet de pâtes chez le discounter, 1,09 € en supermarché, 1,50 € pour les 6 œufs chez le discounter, 2,20 € en supermarché, 79 centimes pour une bouteille de lait contre 1,29 €. Alors après, il faut comparer ce qui est comparable, c'est vrai, et c'est ce que me rappelait un fin connaisseur de la grande distribution. Les comparaisons que je vous fais, c'est pas forcément un produit équivalent. Parfois, il y a des marques d'un côté et ce qu'on va appeler des sous-marques ou des marques distributeurs de l'autre. Effectivement, avec des produits qui peuvent être de moins bonne qualité chez les discounters, des produits qui peuvent être plus gras, qui peuvent être plus salés, plus sucrés. Mais en fait, quand on entend les témoignages là, il y a certains consommateurs qui n'ont plus le choix, qui sont obligés de laisser tomber ces produits, des produits qui étaient de bonne qualité qu'ils achetaient dans les supermarchés traditionnels pour se tourner vers ces produits-là. Donc je pense que moi, la comparaison a du sens, même si la bouteille de soda n'est pas la même.
Après, il n'y a pas que sur la qualité des produits hein, qui font des économies, les discounters, Pierre.
Non, c'est vrai, il y a le personnel aussi. Hein. Les salariés sont beaucoup moins nombreux. D'ailleurs, ça se voit quand on arrive en rayon. On voit de temps en temps des salariés qui sont là, puis d'un seul coup, qui vont à la caisse parce qu'il y a besoin de quelqu'un. Il y a moins de produits, il y a moins de références dans les rayons. Parfois, ils sont vendus, les produits, à même le sol, dans des palettes. Moi, j'ai dû enjamber des cartons, par exemple. Vous n'avez pas de rayon boucherie, vous n'avez pas de poissonnerie. C'est rare d'avoir un rayon boulangerie avec du pain qui est cuit sur place. Même le rayon primeur est réduit au minimum. Donc c'est sur toutes ces choses-là finalement que les discounters arrivent aussi à faire des économies. Et là, pour le coup, parfois sur des produits qui sont tout à fait équivalents, qui peuvent être quelques centimes moins chers, mais on l'a compris, c'est important aussi pour les consommateurs.
Merci beaucoup Pierre Herbulot.
Dans un instant, RTL Midi Votre Vie, c'est la semaine green sur RTL, semaine où l'on vous parle de ces gestes pour mieux respecter la planète. Nous sommes aussi en période de vacances scolaires, alors on va parler vacances vertes. À tout de suite.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi
Votre Vie.
Et l'info qui fait votre quotidien, RTL Midi Votre Vie, effectivement, aujourd'hui.
Eh bien, c'est la semaine green, Pascal, sur
matin,
RTL.
On Yves Calvi.
Yves Calvi, qui, comme les grandes voix d'RTL, s'est lancé un défi à l'occasion de cette semaine spéciale protection de la planète. Exactement, Yves Calvi est devenu locavore.
J'ai locavore. Locavore, j'ai entendu ça ce matin.
Pour être très concret, ça veut dire manger des produits locaux dans un rayon de 250 km. C'est ça la règle que s'est fixée Yves Calvi, donc 250 km autour de Paris. Et parmi ces difficultés, si vous avez entendu la séquence, le café.
Bien sûr.
Qui n'est pas cultivé dans le bassin parisien, comme vous le savez. Nathan Bocard, bonjour.
Bonjour.
À la mi-journée, c'est vous qui relevez un défi. Alors, on ne va pas vous demander de goûter quoi que ce soit, mais de répondre plutôt à une question. En cette période de vacances scolaires, est-il possible d'organiser aujourd'hui des vacances d'hiver green, comme on dit, et comment fait-on? Parce qu'à première vue, les vacances au ski, c'est pas forcément très écolo.
Pas vraiment, non. La faute, déjà, à la pollution liée au transport, à la consommation d'énergie des logements, qui est très importante, des équipements, des stations, comme les remontées mécaniques, ou encore, on en parle très peu, mais les dameuses qui utilisent énormément de carburant pour préparer la neige, tout ça fait que les stations de ski n'ont pas un bilan carbone très glorieux. Et le problème, c'est qu'elles sont aussi les premières concernées par les conséquences de cette pollution. On l'a vu cette année, on le verra de plus en plus par la suite. La neige est de plus en plus rare l'hiver à cause du réchauffement climatique.
Alors on va culpabiliser bien sûr nos auditeurs davantage encore. Comment Pascal. Faire si je suis un amoureux de la montagne mais que je veux quand même préserver la nature? Le premier point, c'est le transport. Je vais à pied.
Non, c'est pas vélo. La question. Ni de culpabiliser, simplement de proposer des solutions.
Cette jeune agir. Génération, depuis qu'elle est née, on lui dit que manger c'est mal, voyager c'est mal, tout ce qu'elle fait est mal. Donc elle arrive à 20 ans, effectivement, culpabilisée.
Jusqu'à ce qu'elle entende Nathan Bocard, qui, vous allez voir, a plein de solutions.
Exactement, on propose des alternatives. Déjà, comme vous le disiez, pour les transports, parce que quand on va faire du ski, dites-vous que plus de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports pour y aller. Alors, plusieurs solutions. Préférer, quand c'est possible, les destinations les moins loin possibles, mais ce n'est pas toujours évident selon où on habite. Quand vous le pouvez, privilégier les destinations accessibles en train pour éviter de rouler en voiture pendant des heures. Si vous devez quand même le faire, penser au covoiturage. Déjà, c'est souvent plus facile que ce qu'on pense. Le
covoiturage, quand on part en famille à 4 ou 6 dans la voiture, on peut être une douzaine, on peut prendre un bus.
Quand c'est possible, Pascal, quand vous le pouvez, si vous partez à deux.
Le covoiturage en vacances, c'est un concept.
Oui, mais si vous avez de la place, vous pouvez déjà être plus éco-responsable, mais économiser de l'argent aussi, puisque vous divisez le coût du voyage, du carburant, des péages. Et puis c'est bon à savoir, certaines stations vous proposent une réduction sur le forfait ski quand vous arrivez, si vous êtes arrivé en covoiturant.
Justement, vous parlez des stations, elles se valent toutes, Nathan, sur le plan environnemental?
Pas vraiment, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous-même les identifier. Alors, il y a un label, par exemple, qui s'appelle Flocon Vert. Concrètement, ça regroupe 20 critères qui font qu'une station est éco-responsable, qu'elle respecte l'environnement. Ça va de la gestion des ressources, des déchets, jusqu'au transport non polluant qu'elle propose sur place. Et actuellement, il y a une vingtaine de stations qui ont ce label, dont certaines qui sont très connues et dans lesquelles les Français se rendent régulièrement.
Alors, une fois que je suis sur place, que j'ai covoituré ou que je suis allé en chemin de fer. Je suis donc dans une station verte. À quoi faut-il faire attention? Le logement peut-être?
Oui, alors vous pouvez, pour le choisir, prendre en compte ce dont on a déjà parlé, donc le côté accessibilité. Est-ce que je peux y aller sans rouler des heures en voiture? Et puis sinon, il existe des sites pour sélectionner des logements respectueux de l'environnement. Un exemple avec GreenGo. C'est une sorte d'Airbnb, mais sur lequel vous pouvez cocher les critères écologiques que vous voulez. Alors il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Je vous propose un petit résumé avec Guillaume Jouffre, qui est le cofondateur de GreenGo.
L'idéal, c'est quand même de sélectionner des logements qui ont une gestion économe de l'eau, qui ont des initiatives favorisant la biodiversité et aussi, sur le volet empreinte carbone, qui ont un mode de chauffage peu carboné, style bois par exemple, hein, vu que c'est quand même à la montagne, une zone où il faut chauffer quand même pas mal, quoi.
Nathan, les sports d'hiver, ça implique aussi un équipement spécifique. Là encore, on peut essayer de réduire son impact environnemental?
Oui, alors déjà, si vous n'êtes pas un grand pro du ski qui passe son hiver sur les pistes, préférez la location de matériel. Ça vous évite d'investir dans un équipement qui sortira du placard une semaine par an. Si vous achetez, quand même, regardez ce qu'on peut trouver d'occasion. Il y a du matériel en très bon état. Ça permet de réutiliser et donc de ne pas surproduire des équipements qu'on n'utilise pas souvent. Autrement, si vous achetez Decathlon, pour ne pas les citer, vous trouverez désormais un affichage environnemental validé par l'Agence de la Transition écologique. En fait, la plupart des vêtements de ski sont notés avec une lettre entre A et E qui vous indique leur impact sur l'environnement.
Et donc, si j'ai bien compris, passer des vacances vertes, ce n'est pas forcément plus cher.
Mais pas nécessairement, non, puisque vous l'avez compris, vous l'avez écouté, certaines pratiques vous feront même faire des économies. Le covoiturage, on disait que ce soit sur le carburant ou le péage, ou grâce aux réductions sur les forfaits de ski quand vous arrivez. L'achat d'occasion pour l'équipement, ça vous coûtera toujours moins cher que le neuf. Après, pour les logements, c'est du cas par cas, mais si vous en prenez un qui consomme moins d'énergie, il vous coûtera en général moins cher à la location.
Merci beaucoup Nathan Bocard.
Et nous voici convaincus, merci beaucoup. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Praud,
RTL Midi jusqu'à 13h. RTL. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de votre grande édition, Céline.
Les ailes de la liberté pour nous défendre. Voilà comment Volodymyr Zelensky justifie sa demande aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles après Londres et Paris. C'est la mini-tournée européenne du président ukrainien venu remercier les Européens de leur soutien depuis le début du conflit en Ukraine et pour leur demander également d'en faire davantage et de fournir des avions de combat. Londres ouvre la porte. Quid des 27, ce sera le sujet du développement qui suivra le journal. Et puis c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. La France doit-elle, selon vous, fournir des avions de combat à l'Ukraine? Dans ce journal, nous serons également en Turquie alors que le bilan du séisme qui a frappé le pays et la Syrie dépasse désormais les 17 000 morts. Les hôpitaux sont surchargés. On parlera de la grippe saisonnière en France, puisque les autorités sanitaires recommandent désormais de vacciner tous les enfants à partir de 2 ans. Et puis du foot et l'inquiétude autour du Paris Saint-Germain après cette nouvelle déconvenue hier soir au Vélodrome. Défaite de 2-1 en 8e de finale de la Coupe de France. Pas vraiment encourageant à quelques jours de retrouver la Ligue des Champions et le Bayern Munich. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Il a 70 ans, il est toujours fringant. On parlera du livre de poche.
Et on parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h avec les auditeurs au 32-10. Le mouvement contre la réforme des retraites doit-il, selon vous, se durcir? Ce sera l'une de nos questions.
Le froid était vivifiant pour le moins ce matin, mais ça se réchauffe cet après-midi, Peggy.
Avec des valeurs de saison et encore beaucoup de soleil.
Merci Peggy, la météo complète comme d'habitude à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Il a été longuement applaudi par les eurodéputés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est à Bruxelles pour demander aux Européens de l'aider encore plus.
Nous sommes Européens, a insisté Volodymyr Zelensky, remerciant les 27 de leur soutien militaire à quelques jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Thomas Després, vous êtes à Bruxelles pour RTL. Zelensky a remercié, on vient de le dire, mais il demande aussi aux dirigeants européens d'aller encore plus loin.
Oui, si l'Ukraine tombe, dit Volodymyr Zelensky aux Européens, c'est votre mode de vie qui tombera, un appel à l'aide comme une menace. Le président ukrainien venu ici à Bruxelles réclamer plus d'armes pour son pays, des avions notamment, mais pas que. Sa venue ce matin au Parlement européen avait un autre objectif, réaffirmer sa volonté d'intégrer l'Union européenne.
Nous voulons devenir membre de l'Union européenne. L'Ukraine souhaite participer à cet effort. L'Ukraine veut gagner son adhésion. Dans une Europe qui gagne.
Ovation des députés des 27 États membres. Réponse de la présidente du Parlement européen sans ambiguïté.
L'Ukraine, c'est l'Europe. Et l'avenir de votre nation est au sein de l'Union européenne.
Volodymyr Zelensky qui s'est vu remettre comme un symbole le drapeau européen.
Thomas Després à Bruxelles pour RTL. La question des avions de chasse pour aider l'armée ukrainienne, on y reviendra après le journal, vous le savez. Londres a semblé ouvrir la porte hier. Les 27 sont, eux, beaucoup plus prudents. On fera le point après le journal avec Émilie Beaujard.
RTL Midi.
En France, le mois de mars pourrait être celui du durcissement sur le front des retraites.
Oui, vous savez que la prochaine démonstration de force des syndicats est prévue ce samedi, le 11. Prochaine date déjà annoncée le 16, jeudi prochain. Et puis RTL vous le révélait dès hier soir, les syndicats ont déjà coché la date du 7 mars pour une nouvelle mobilisation massive après les vacances scolaires. Et puis les syndicats expliquent déjà qu'il sera alors probablement l'occasion de durcir le mouvement. On verra ce qu'ils mettent derrière ce mot de durcissement dans quelques jours, puisqu'on en saura plus à la fin de la semaine.
Face à la grippe, et si le salut venait des enfants?
Les autorités sanitaires veulent en tout cas renforcer la vaccination chez les plus jeunes. Elles recommandent désormais, Virginie Garin, de vacciner contre la grippe saisonnière tous les mineurs, et cela à partir de 2 ans.
Oui, car cet hiver, surtout en décembre, souvenez-vous, les hôpitaux ont été débordés, les services pédiatriques dépassés parfois, obligés de transférer des enfants dans d'autres hôpitaux à cause de la bronchiolite, mais aussi de la grippe. La grippe touche les jeunes. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de passages aux urgences de moins de 17 ans. Donc, vacciner les enfants dès 2 ans, c'est permettre de soulager l'hôpital, de les protéger, protéger les enfants, leur entourage, les personnes fragiles. Les effets secondaires du vaccin contre la grippe, il y en a très peu. Il est bien toléré, estime la Haute Autorité de Santé. Et puis, il existe un vaccin au spray, utilisé déjà aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Pas besoin de piqûres, c'est moins contraignant. La HS qui recommande évidemment qu'il soit remboursé par l'assurance maladie.
Virginie Garin, merci.
L'épilogue d'un mois de recherche dans le Nord. Marie-France et Richard avaient disparu le 1er janvier. Leurs corps ont été découverts hier soir.
À l'intérieur de leur véhicule, leur voiture tombée dans le canal de Lescaut, près de Valenciennes. Franck Hanson, la piste de l'accident est privilégiée et pour les proches, le mince espoir qui subsistait vient de s'évanouir.
Oui, Marie-Hélène Legrand, la fille aînée, le craignait depuis un moment, ce coup de téléphone de la procureure hier soir. C'est chez elle, dans la campagne près de Maubeuge, que ce couple de Roubaisiens a passé sa journée du 1er janvier, avant de reprendre la route. Depuis, les proches avaient multiplié les démarches pour tenter de les retrouver.
C'est toujours un choc quand on a la confirmation. C'est compliqué à vivre, bien sûr. Après, bon, on est quand même soulagé qu'on les ait retrouvés, parce qu'en général, on attendait depuis plus d'un mois, et ça, c'était difficile de pas savoir où ils étaient, en fait. C'est vrai qu'ils étaient dans l'eau, donc c'était difficile de les retrouver. C'est ce qu'on voulait aussi, pour pouvoir faire notre deuil, et on n'avait pas vraiment d'espoir de les retrouver vivants.
La Citroën C3, repêchée dans le canal, va être expertisée. L'endroit près d'un port fluvial de conteneurs n'est pas directement sur le trajet des retraités, mais la voiture a pu dériver dans l'eau. Leur fille pense aussi qu'ils ont dû se perdre.
Il y avait une déviation tout près, donc moi je pense qu'ils ont pris la déviation et que c'est à ce moment-là qu'ils se sont perdus. Ils ont dû continuer tout droit, je suppose, puisqu'on les a retrouvés près de Saint-Saulve. Je ne pense pas qu'ils avaient un GPS dans leur voiture. Il y avait déjà eu des recherches aquatiques qui avaient été faites à d'autres endroits. Ils ont vraiment cherché jusqu'au bout.
L'autopsie des corps de Marie-France et Richard, prévue cet après-midi, permettra aussi de lever d'éventuels doutes.
Franck Hanson dans le Nord pour RTL.
RTL Midi. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. On déplore désormais plus de 17 000 morts.
Et 3 jours après le drame, les chances de sortir des survivants des décombres s'amenuisent, plus encore avec le froid et les températures souvent négatives la nuit. Guillaume Brunereau, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de M6 en Turquie. On vous retrouve en direct. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Karamanmaras et au-delà des morts, il y a aussi des milliers de blessés et dans les hôpitaux, la situation est très critique.
Oui, alors on a pu joindre ce matin un médecin d'un hôpital de la grande banlieue de Karamanmaras qui nous expliquait que ce sont ces hôpitaux-là qui sont maintenant sollicités parce qu'en ville, eh bien, les hôpitaux privés comme publics sont saturés, débordés. La situation est particulièrement délicate pour les blessés, mais aussi pour les morts, je vous le dirai ensuite. Mais pour les blessés, en fait, ils sont acheminés par hélicoptère pour être pris en charge dans ces hôpitaux qui sont un peu moins sous tension. En termes du protocole national pour venir identifier les corps, la situation, elle aussi, est tendue en ville. Les habitants n'ont que 24 heures pour le faire. Au-delà, les corps sont inhumés très rapidement ensuite. Après une prise d'ADN et des empreintes digitales et quelques photos. Mais donc, on sent que la situation est extrêmement compliquée en ville où tout déplacement, de toute façon, est aussi compliqué. Donc là, c'est toute la région qui est sollicitée pour faire face à la situation.
Et Guillaume, sur place, comment la population réagit ? Est-ce que vous sentez une certaine colère monter ?
Alors justement, effectivement, cette population, face à ce que je vous disais, c'est-à-dire ce manque de coordination qui est pas tant. On le voit, la ville est totalement saturée par des embouteillages. Chacun tente d'aider comme il le peut, mais sans cette coordination, eh bien, c'est une situation absolument chaotique et qui monte, on sent monter une polémique à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, avec des tensions. On voit des scènes parfois de bagarres, des pillages, des gens qui sont excédés par le fait que les secours ne vont pas assez vite, même s'ils sont à pied d'œuvre, hein, sur chaque immeuble tombé dans le centre-ville, c'est le cas. Et le tout dans un contexte politique qui est particulier, puisque vous savez qu'en Turquie, des élections sont en juin. Hier, le président Erdogan était à Karamanmaras. Il a reconnu des lacunes, mais il a aussi expliqué qu'il était impossible d'anticiper une telle catastrophe. C'est également ce qui lui est reproché sur les réseaux sociaux. On sait que Twitter était inaccessible toute la journée d'hier et que les autorités ont dû démentir le fait qu'il n'y avait pas assez de policiers pour organiser les secours. Nous, concrètement, ça donne pour des journalistes étrangers une suspicion généralisée et constante de chaque habitant qui se demande dans quelle mesure et comment vont être utilisées les images que nous filmons ou les témoignages que nous recueillons pour ou contre le pouvoir. On sent que ce sous-texte, ce contexte politique vient également rajouter une couche de tension si l'on était dans une situation qui est très tendue, très compliquée pour les habitants à mesure que passent les jours et le froid qui vient mordant encore compliquer les choses.
Merci beaucoup, Guillaume Brunereau, envoyé spécial de M6 en Turquie.
Nous sommes le 9 février, le Paris Saint-Germain a déjà perdu 3 fois depuis le début de saison, alors qu'arrive la Ligue des Champions. L'OM est sur un petit nuage au lendemain de la victoire, donc face au PSG en 8e de finale de la Coupe de France.
12 ans que les Marseillais l'attendaient, cette victoire décrochée de 2-1 à la maison face à des Parisiens bien ternes. Hier soir, une déconvenue de plus, vous le disiez Pascal, pour Neymar et ses coéquipiers du PSG, et un sérieux rappel à l'ordre à quelques jours du 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Philippe Sanfourche.
Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'on n'est plus au stade du rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre, vous le disiez, il a déjà eu lieu dernièrement à Lens, à Rennes en ce début d'année. 2 déplacements compliqués sur le papier, 2 défaites à la clé. En voilà donc une 3e qui ne souffre d'aucune contestation, avec à chaque fois le même constat. Le PSG est totalement soluble dans l'intensité adverse, sous la pression. Paris s'effrite. Ça fait des mois que cette carence est identifiée. Sauf que, jusqu'à présent, ce collectif défaillant disposait d'un cache-misère de luxe en la personne de Kylian Mbappé. L'effet pervers, c'est que son efficacité absolument démoniaque a aveuglé la direction sportive parisienne. Maintenant qu'il est blessé en son absence, eh bien la vérité saute aux yeux de tout le monde. Même avec Messi et Neymar, ce n'est pas suffisant pour combler les manques d'un effectif mal fagoté, déséquilibré. Les joueurs arrivés l'été dernier sont quasiment tous défaillants. Les Ruiz, Solaire et Kitiqué ont 5 jours pour réagir, accepter d'aller au combat, limiter la casse face au Bayern Munich au match aller, en priant pour que le sauveur Kylian Mbappé soit sur pied le 8 mars au match retour.
Merci. Budget du PSG, Philippe, cette année ?
Pas loin de 700 millions d'euros.
Voilà.
L'argent ne fait pas le bonheur.
C'est ça. Merci Philippe Sanfourche. Avant de parler Ligue des Champions, dernier 8e de finale de la Coupe de France quand même ce soir. Le derby du dictionnaire, comme vous disiez hier Pascal, puisque Lorient reçoit Lens à 21h. En rugby, les Bleus iront à Dublin avec la même équipe que Rome le week-end dernier. Le staff du 15 de France a reconduit exactement la même équipe de départ, Irlande-France, on le rappelle. Ce sera samedi à 15h15 et à suivre dans les rendez-vous d'information sur RTL. La météo, Peggy Broche, vous êtes donc de retour pour nous dire que ça se réchauffe.
Oui, et ça fera du bien parce que c'est vrai qu'on a eu des gelées généralisées et parfois bien marquées. Moins 8 ce matin à Nancy. Cet après-midi, on revient à des températures de saison quasiment partout. 5 degrés pour Nancy, 7 à Paris, Lille et Tours, 8 à La Rochelle, 10 à Limoges ainsi qu'à Marseille, 11 degrés à Perpignan et 12 à Montauban. Côté ciel, on a le soleil qui permet ce réchauffement, ce radoucissement qui est quasiment sur l'ensemble du pays. Je dis quasiment parce qu'on a cette perturbation qui arrive sur le nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, qui va donner essentiellement des nuages, un ciel bien couvert et peut-être quelques gouttes sur les bords de Manche, mais alors vraiment sur la côte, sur le nord-Bretagne et la pointe du Cotentin, mais c'est pas sûr. Et on a également une belle amélioration sur la Corse, où le temps était plutôt bien agité. Juste quelques flocons et plus d'éclaircies cet après-midi.
Merci beaucoup Peggy.
La France doit-elle fournir des avions de combat à l'Ukraine ? C'est l'une des questions qu'on va poser à Émilie Beaujard dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
I appeal to you.
Je vous demande à vous et au monde des mots simples mais pourtant très importants.
Combat aircrafts for Ukraine.
Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, hier à Londres, et après Londres et Paris, c'est à Bruxelles qu'il est venu demander aujourd'hui davantage d'aide aux Européens à quelques jours de l'anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine. Pour en parler avec nous, Émilie Beaujard du service international d'RTL, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Després qu'on retrouve en direct de Bruxelles, où le président ukrainien a donc rencontré ce matin les 27, Thomas.
Oui, il est même en train de le faire en ce moment même au Conseil européen, après un passage ici où je me trouve au Parlement européen, un Parlement européen où il a à nouveau rappelé la nécessité d'un engagement européen, un engagement moral, financier, mais aussi, je crois que vous allez en parler, un engagement militaire, réaffirmer le soutien à l'Ukraine et surtout préparer la suite avec, pourquoi pas, une adhésion à l'Union européenne. C'est ce qui est aussi venu demander Volodymyr Zelensky aujourd'hui.
Évidemment, on décode les propos d'Emmanuel Macron hier et je lisais ce matin dans le Figaro, Thomas, une phrase de Zelensky. Mmh. Cette fois, Emmanuel Macron a changé pour de vrai. Ça veut dire oui, quoi cette phrase ?
Parce qu'entre les deux, les relations ont parfois été, on va pas dire compliquées, mais il y a eu parfois des points d'ambiguïté de la part d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait continuer à parler à Vladimir Poutine, qu'il fallait préparer la suite. Et donc, cela a pu être interprété du côté ukrainien comme une difficulté de se positionner entre les deux. Emmanuel Macron qui, depuis, a un soutien beaucoup plus clair à Vladimir Zelensky. C'est en ça, je crois, que le président ukrainien dit qu'Emmanuel Macron a changé. Désormais, il est plus clair dans son soutien à l'Ukraine.
Parmi les temps forts de cette mini-tournée européenne de Volodymyr Zelensky, il y a cette phrase qu'on a entendue au début de cette séquence hier à Londres. « Je vous demande des ailes pour la liberté ». Ces ailes, ce sont bien sûr, et là c'est un peu moins romantique, des avions de chasse, Émilie Beaujard. Après les chars lourds, c'est la grande demande de Kiev. En quoi c'est si crucial aujourd'hui pour l'armée ukrainienne ?
Oui, alors les Ukrainiens, ils seraient surtout preneurs de F-16, hein, ces avions de chasse américains ultra-modernes et plutôt bon marché. En fait, ils permettraient aux Ukrainiens de rivaliser avec l'aviation russe déjà et surtout de remplacer leurs vieillissants MiG-29 et Sukhoi-27, des avions soviétiques sur lesquels ils ont de plus en plus de mal à trouver des pièces de rechange. En visant les positions ennemies plus facilement, l'armée ukrainienne espère ainsi reprendre l'initiative sur le terrain où depuis plusieurs semaines, on le voit, hein, le front est plus ou moins figé malgré quelques petites percées russes. Avec des chars lourds et des avions de chasse, il s'agirait donc pour l'Ukraine de se préparer pour le printemps et la reprise des offensives et bien sûr contre-offensive.
Sauf que ces avions, il faut qu'ils trouvent des pilotes et les pilotes, ça ne se forme pas en deux jours.
Ah non, alors non, ça c'est sûr. Former un pilote d'avion de chasse, c'est très compliqué, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on, comme pour les chars d'ailleurs, on dit même si on envoie des chars lourds et des avions de chasse, il y aura toujours le temps de latence
c'est
déjà
des mois. Moi, j'ai lu
que
des
ça
mois.
Arrive et des mois de formation. Alors même si on peut faire des formations accélérées, ça se compte quand même en plusieurs semaines, ça c'est sûr.
Le Royaume-Uni a semblé ouvrir la porte hier à la livraison d'avions de chasse. Les positions évoluent sur ce sujet ?
Alors, comme pour les chars lourds, ce sont les Anglais, effectivement, qui ouvrent à nouveau la porte. Pourtant, il n'y a pas de consensus européen sur le sujet. L'Allemagne est plutôt contre. Les Pays-Bas et la Pologne, plutôt pour. La France, elle, à mi-chemin, quoi, elle reste ouverte à la discussion. Mais si les Anglais acceptent de livrer des avions de chasse, alors on voit mal les autres pays européens refuser de faire de même. C'est ce qui s'est passé pour les chars lourds. Les Anglais ont annoncé en premier l'envoi de leur Challenger 2. Les Ukrainiens ont d'ailleurs bien compris cette technique, puisque la semaine dernière à Paris, le ministre de la Défense ukrainien nous expliquait « Quand on a demandé des HIMARS, on nous a d'abord dit non. Quand on a demandé des chars lourds, on nous a d'abord dit non. Quand on a demandé des blindés, on nous a d'abord dit non. » Donc, bref, vous l'avez compris, Kiev attend en fait maintenant que les Européens et les Américains se mettent d'accord et envoient bientôt peut-être des avions de chasse.
Et quelle est la crainte des Européens ? Pourquoi sont-ils si frileux ?
Eh bien, comme depuis le début du conflit, il y a presque un an, la crainte, c'est l'escalade, ce qu'on appelle la co-belligérance, entraîner toute l'Europe dans une guerre face à Moscou. À chaque nouvelle étape dans l'aide militaire à l'Ukraine, les Occidentaux s'assurent donc que les engins ne serviront pas à toucher le territoire russe. Tout doit rester défensif, défendre l'Ukraine face à la Russie, et c'est tout. Alors, bien sûr, on peut s'interroger sur la réalité de cette ligne rouge, ou cette ligne de crête, hein, comme vous voulez, mais jusqu'à présent, les Ukrainiens ont respecté ces limites posées pour leurs alliés. Il n'est donc pas impossible que le bon élève ukrainien reçoive finalement ses avions de chasse.
Merci beaucoup, Émilie Beaujard, et on suivra évidemment tout ça avec vous.
C'est peut-être la plus belle invention du XXe siècle, le livre de poche. Il fête ses 70 ans. Il est beaucoup plus vieux que Bernard Lehu, qui est avec nous dans un instant et qui va célébrer cet anniversaire.
Je confirme pour l'âge.
À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met donc à table tous les jours dans RTL midi. Aujourd'hui, je le disais, un septuagénaire qui est en pleine forme, c'est le livre de poche.
qui fête, oui, ses 70 ans, formidable succès depuis sa création, et une des plus belles sagas du monde de l'édition, Bernard Lehu.
Mais oui, le 9 février 1953 paraît le premier titre au livre de poche, Königsmark de Pierre Benoît. Bon, on les a un peu oubliés, ouais, tous les deux.
Ça, ça m'a échappé, Königsmark.
L'homme qui a l'idée de cette collection géniale, petit format, petit prix, s'appelle Henri Filipacchi, éditeur chez Hachette. Alors la légende veut qu'il se soit inspiré du pocketbook, le petit livre de consignes que trimbalaient dans la poche de leur trier les GIs à la Libération. C'est une vraie révolution, bien sûr, mais cette démocratisation de la lecture ne plaît pas forcément à tout le monde. Est-ce que ce sont encore de vrais livres, s'interroge Jean-Paul Sartre, et d'autres vont encore plus loin, comme cet étudiant dans un reportage télé de l'époque.
Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement.
C'est terrible, ah oui, c'est... cette espèce de mépris de classe qui pouvait exister. Mais Sartre, c'est plus surprenant. Quoi qu'il en soit, le livre de poche sera un succès immédiat.
Ah bah oui, il suffit de se pencher sur les chiffres. Deux titres se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. À votre avis, lesquels? Est-ce que vous avez une petite idée?
Au moment où c'est sorti?
Depuis évidemment, la création du livre de poche.
Un Alexandre Dumas, peut-être?
Le Grand Moule. À plus de 5 millions, hein, Le Grand Moule d'Alain Fournier et Vipère au Point.
Oui, mais parce que c'est des livres qu'étudiaient les lycéens et les collégiens.
Voilà, alors c'est vrai que les prescriptions scolaires jouent beaucoup, évidemment. Alors, mais il y a deux autres titres à plus de 4 millions, Le Journal d'Anne Frank et Germinal de Zola, plus de 3 millions, Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet ou Des Petits Nègres. Pardon, on n'a plus le droit de dire ça. Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Autant de livres qui sont entrés dans nos vies, dans nos imaginaires, des petite Madeleine, chargée de souvenirs et de sensations, y compris chez les romanciers publiés aujourd'hui au livre de poche, comme Jean-Christophe Granger, l'auteur des Rivières pourpres.
J'ai toujours vu, petit, et notamment à la campagne, je me souviens de mes vacances à la campagne, ces livres de poche qui traînaient sur les tables. Je ne savais même pas lire encore, mais je voyais ces couvertures qui étaient, je dois dire, assez angoissantes. À l'époque, ils illustraient les couvertures du livre de poche par des peintures qui étaient un peu flippantes quand même. En plus de ça, je voyais toujours ma grand-mère, avec qui je passais mes vacances, et ma tante, discuter de ces livres avec ces couvertures inquiétantes et d'une façon passionnée. À l'époque, tout le monde fumait. Alors, elle fumait des gauloises, elle faisait la vaisselle et elle parlait de tels bouquins qui les avaient secoués, tout ça. Et c'était le livre de poche. Donc le livre de poche, c'était une présence, je dirais, quotidienne, permanente, partout, et qui recélait le grand mystère de la littérature.
Et il n'y a pas que les classiques ou les auteurs morts qui cartonnent au livre de poche, Bernard.
Ben non, je vous rassure, vous voulez encore des chiffres. Catherine Pancol avec Les yeux jaunes des crocodiles, ou Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, plus de 2 millions, 1 million 200 000 pour le best-seller La tresse de Laetitia Colombani, elle aussi biberonnée au livre de poche.
Ma mère travaillait comme bibliothécaire, donc j'ai vécu dans un environnement envahi de livres de poche. Donc je dirais qu'à partir de l'âge de 8-9 ans, j'ai été une très très grande consommatrice de livres de poche. Mes grandes émotions, mes grandes découvertes, ça a été Maupassant, ça a été Madame Bovary. Donc c'est une histoire d'amour précoce.
Est-ce que vous êtes allée jusqu'à garder de vieux livres de poche que vous aviez lus plus jeune?
Oui, j'ai même des livres brûlés, puisque la bibliothèque dans laquelle travaillait ma mère a été victime d'un incendie. Et en fait, il y avait certains livres qui avaient la couverture un peu abîmée, un peu brûlée, mais qui étaient encore à l'intérieur, le texte était intact. Mais on ne pouvait plus les remettre en rayon, et donc moi je les ai récupérés. Du coup, ça a senti le brûler pendant longtemps dans ma chambre, parce que j'avais tous ces livres de poche. Et j'ai encore certains exemplaires à la couverture à moitié brûlée, mais qui sont comme des petits trésors.
Un livre qui sort en première édition, en grand format, c'est à peu près 20 euros. En poche, c'est 4 fois moins.
3 fois moins, oui. 3 moyennes. Oui.
Et donc, sortir au livre de poche, accéder à un large public, c'est une forme de consécration pour les auteurs.
Bah, évidemment, écoutez l'enthousiasme avec lequel en parle justement Jean-Christophe Granger.
Le passage au livre de poche, c'est comme si on gravait mes œuvres dans le marbre. Là, on devient vraiment un écrivain adoubé par la grande, grande, grande diffusion. C'est mon académie à moi. Et maintenant, parfois, je loue des maisons de campagne. Il y a toujours des vieux bouquins sur les étagères, tout chiffonnés, à moitié déchirés, tout ça. Et mes enfants, ils regardent toujours s'il y a un Granger. Et bien, quand il y a un Granger, je me dis, ça y est, t'es arrivé. au Panthéon. Ça, le livre de poche, c'est ma légion d'honneur.
Voilà, le dernier thriller de Jean-Christophe Granger, d'ailleurs Les Promises, vient de paraître au livre de poche.
Et toutes les grandes éditions ont évidemment leur livre de poche, par exemple Folio pour Gallimard.
Évidemment, le succès a été très vite imité par la concurrence. Les deux premiers qui se créent, c'est J'ai lu par Flammarion et Pocket ensuite. Et en 1970, Gallimard crée Folio. Mais au départ, Gallimard est dans le groupe du livre de poche, par exemple. C'est comme ça qu'on peut retrouver, même si L'étranger de Camus aujourd'hui est en folio, on retrouve de vieilles éditions au livre de poche de L'étranger de Camus ou de La Peste, avec des couvertures qui dorment encore dans nos bibliothèques.
Il est incollable.
C'est pratique, bien sûr, sur la plage, pour mettre dans la poche, partout, et partir.
D'où son nom, peut-être.
D'où son nom, peut-être.
Ah, quelle perspicacité.
12h57, on va évoquer tous ces sujets avec nos auditeurs. Alors, vous rencontrez toujours des auditeurs qui lisent dans le métro, tous les jours, et vous faites des photos formidables. Je vous ai dit, il faut que vous publiez un jour un livre avec toutes ces photos, c'est formidable.
Eh ben, on va aller voir un éditeur, peut-être au livre de poche.
Et on va interroger, pourquoi pas, nos auditeurs. Est-ce que vous lisez dans ce format-là les livres? Est-ce que vous attendez qu'ils sortent pour qu'ils soient moins chers? On est au 3210 ensemble jusqu'à 14h30.
RTL Midi.